La télévision, c'est Djoliba TV News. L'émission, c'est Fait Marquant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Fait Marquant qui donne la parole aux acteurs, témoins et acteurs des événements marquants de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de jeunesse. La plus grande richesse d'un pays, dit-on, est la jeunesse. Alors, de quelle jeunesse parle-t-on? Et que faire pour que cette jeunesse soit une richesse et non un problème pour le pays? Face à une couche sociale majoritairement en manque de formation professionnelle adéquate ou encore peu instruite, comment développer un pays? Cette question, la Fondation Petit Stylo, en collaboration avec l'Union européenne, entend apporter sa pierre, leur pierre à la construction de l'édifice en organisant dans la mouvance de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août de chaque année, une campagne nationale pour renforcer la capacité d'agir des jeunes sur eux-mêmes et sur leur environnement. Alors, pour en parler, nous sommes avec le président fondateur de la Fondation Les Petits Stylos, et le président Stéphane Sissoko. Bonsoir.
Bonsoir, Ibrahim Guindo.
Bienvenue sur le plateau de Fait Marquant.
Bonsoir à tout le monde aussi, à toutes les personnes qui nous regardent au Mali, un peu partout dans le monde aussi, puisque j'ai cru comprendre que votre émission est suivie et que même sur Internet, on peut le voir. Donc, merci de votre invitation et merci de me recevoir sur ce plateau pour parler jeunesse. Et donc, on va parler jeunesse.
C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes, je le disais, président fondateur de la Fondation Les Petits Stylos et aussi enseignant-chercheur en sciences de la société, autrement dit en langage commun à tout le monde, sociologie.
Oui.
Et vous êtes également initiateur de la campagne Mouvement des jeunes pour les jeunes. Alors, pour commencer, parle-nous un peu de Petits Stylos et de votre parcours en tant qu'enseignant-chercheur jusqu'à à cette activité que vous menez actuellement.
Bon, très très bien. Bon, merci en tout cas de cette opportunité puisque c'est très riche et très intéressant ce que je vais dire dans l'histoire des Petits Stylos Fondation, en fait, et qui est totalement lié à mon parcours, d'ailleurs en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, moi j'ai vécu au Mali jusqu'au baccalauréat, comme beaucoup de gens me connaissent. Et puis après, je suis allé faire des études en France. Et donc, j'ai fait carrière là-bas et jusqu'à à ce que je devienne en fait enseignant-chercheur en France, dans le domaine sciences de l'éducation. Et donc, j'enseigne la sociologie de l'éducation, comme vous l'avez indiqué. J'enseigne la professionnalisation. J'ai une spécialité qui est assez rare, c'est la didactique professionnelle. Ça veut dire réfléchir sur l'activité pour concevoir des parcours de formation qui sont assez proches des réalités de l'emploi, qui permettent aux gens d'être opérationnels. Et donc, du coup, j'ai décidé de rentrer dans mon pays, d'être enseignant-chercheur à l'Université de Lettres et Sciences Humaines de Bamako. J'ai candidaté et puis, depuis 7 ans maintenant, je suis en poste à l'université. Et à un moment donné, ce qui s'est passé dans ces parcours, j'ai découvert que souvent, il y avait des contextes, dans le contexte universitaire, il y avait des grèves des enseignants ou grèves des étudiants, en fait.
Des étudiants,
et donc, du coup, moi, j'avais enseigné à des jeunes anciens de l'éducation et ils sont allés à 7 mois de grève, je me souviens, en 2018. Et en 2018, j'avais créé une classe virtuelle pour former les garçons et filles qui étaient dans ma classe, pour les former à distance, puisque je ne faisais pas grève. Et donc, progressivement, quand je continue à les former, les jeunes maliens, en fait, sont solidaires. Les jeunes maliens ne pensent pas qu'à eux-mêmes. Et ces jeunes qui étaient dans ma classe virtuelle m'ont dit, « Mais messieurs, ce que vous faites pour nous, on est reconnaissants. C'est très intéressant ce que vous faites pour nous. Mais en fait, est-ce que vous voyez ce qui se passe pour nos sociétés, pour nos jeunes qui ne vont pas à l'école, qui sont là ? Je leur dis, vous avez raison, donnez-moi une nuit, je vais y réfléchir. Et de cette réflexion et de cette pression des jeunes est née des Petits Stylos Fondation. C'est-à-dire, le lendemain, je leur dis, je vais mettre en place une organisation, une association qui aura pour vocation d'outiller le secteur de l'éducation pour faire les choses au bien, pour faire les choses au mieux. Je sais que les autorités, depuis des décennies, essayent dans le secteur de l'éducation. Ce n'est pas par négligence. Ils essayent, mais parfois, c'est compliqué. Nos situations font que, parfois, on n'arrive pas. On n'arrive pas parce qu'on peut être seul aussi ou isolé. Donc, l'idée, c'est de venir renforcer ce qui se fait déjà, donc en outillant le secteur de l'éducation. Donc, voilà comment les Petits Stylos Fondation est née. C'est une association, est née ici au Mali, avec pour vocation donc, d'outiller le secteur de l'éducation, de renforcer la place de la femme dans le système éducatif, puisque quand vous regardez le système éducatif malien, niveau primaire, donc on a une scolarisation de masse, oui. Mais quand on arrive au niveau secondaire ou au niveau supérieur, eh bien, l'effectif des femmes est totalement limité. Mmh. Donc notre combat, c'est de renforcer la place de la femme dans le système éducatif. Et troisième ambition, c'est la question de l'autonomie des jeunes. C'est-à-dire permettre à nos jeunes de s'affranchir des tutelles sociales. Vous voyez bien, quand vous avez été jeune, vous êtes jeune, et quand vous rencontrez vos amis, ils se disent « mais je ne sais pas quoi faire ». Première chose qu'ils vous disent, « je ne sais pas dans quelle activité m'engager ». Deuxième chose qu'ils vous disent, « il n'y a aucune opportunité ici ». Troisième chose qu'ils vous disent, « j'arrive pas à me prendre en main ». Quatrième chose qu'ils disent, j'arrive pas à me prendre en main, j'arrive pas à subvenir à mes besoins, j'arrive pas à faire ce que je souhaite, j'arrive pas à trouver le bonheur dans ce que je fais. Donc, de toutes ces ambitions, le petit stylo structure des activités pour répondre à ces différentes ambitions. Donc, vous voyez bien que, voilà, dans l'idée, c'est comme ça que l'association est née. Ce sont les missions qui sont les nôtres. Mm-hmm. Et c'est dans ce sens-là que nous avons décidé d'aller sur cette campagne jeunesse pendant un mois pour parler jeunesse, pour permettre aux jeunes de pouvoir porter des projets pour les jeunes et donc de sensibiliser à la question de la jeunesse, de renforcer les capacités des jeunes, c'est le sous-titre que vous avez indiqué aussi.
D'accord. Cette campagne jeunesse pour les jeunes est déjà à sa deuxième édition. Alors, parlez-nous brièvement de la première édition, ça consistait à quoi et est-ce que vous avez été satisfait des résultats de la première?
Alors, c'est très intéressant parce que les petits stylos fondation, depuis 2022, décembre 2022, jusqu'à aujourd'hui, nous organisons en fait des conférences sur l'espace culturel Urgol Café, donc à Kéa Moussabougou. On organise tous les samedis des conférences pour permettre aux jeunes eh bien, d'accéder à des ressources qui sont utiles à leur développement. Par rapport à nos missions. Mmh. Et donc, on a été identifié dans ce sens l'année dernière. On a été identifié par la délégation de l'Union européenne au Mali parce que nous sommes actifs sur ces questions-là. Mmh. Et ils nous ont demandé est-ce qu'on peut organiser la campagne jeunesse avec eux, puisqu'ils ont des idées et ils voient que nous aussi, on a beaucoup d'idées. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour aller sur une campagne jeunesse sur une journée, quasiment une demi-journée. Donc, on a dit oui, nous voulons faire cela. Puisque la campagne jeunesse, l'objectif, c'est d'écouter les jeunes et de comprendre leurs problématiques. Nous avons organisé cette première édition donc, en 2023, en réunissant les jeunes, en faisant des tables rondes tournantes, en essayant de les écouter, en essayant de leur faire parler avec la délégation de l'Union européenne au Mali. Et en les faisant parler, on a accompli beaucoup de choses qu'on a écrites. Et donc, riche de cette première expérience d'une journée, on a porté le projet de cette année sur un mois. En se disant qu'une journée, c'était insuffisante pour parler aux jeunes, pour parler des problématiques des jeunes. Et donc, on pouvait le mettre sur quatre semaines.
Quatre semaines, est-ce que le risque n'est pas énorme?
Qu'est-ce qui est énorme?
Le risque, une journée à quatre mois, un mois, est-ce que les jeunes répondront? Est-ce que vous avez capacité de remplir les salles?
Ben, écoutez, nous avons suffisamment d'expérience aujourd'hui sur le terrain et les équipes ont développé de véritables compétences en organisation, c'est-à-dire que moi j'ai plusieurs enjeux. Le premier enjeu, puisque ce n'est pas dans l'ordre en fait, hiérarchique, un des enjeux, c'est du coup de faire des actions socialement utiles et au service des jeunes. Mais un autre enjeu aussi, c'est de pouvoir former les équipes. De les former de façon opérationnelle sur l'animation socioculturelle, puisque c'est le métier que nous visons avec nos jeunes. Ils font de l'animation socioculturelle. Donc, tous les jeunes qui sont partis d'ailleurs, qui sont passés par la fondation, qui ont travaillé avec nous pendant plusieurs années, à chaque fois qu'ils vont aller ailleurs, les gens citent les mérites de leurs compétences professionnelles parce qu'ils ont mis en application sur le terrain. Donc, de cette expérience, de la capitalisation de cette expérience, on se retrouve aujourd'hui à porter un projet qui est beaucoup plus ambitieux avec des tables rondes, des ateliers qui sont organisés, qui sont prévus, des conférences qui sont prévues avec des personnes clés qui ont marqué leur environnement, qui vont venir parler aux jeunes, avec des réseaux de mobilisation qui sont efficaces, qui permettent aux jeunes d'être sensibilisés et de venir. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pense, les jeunes, il ne faut pas leur payer pour qu'ils viennent suivre des formations. Les jeunes viennent naturellement, en fait, suivre ces formations. Quand vous regardez nos images, il suffit de parcourir les pages Espace culturel ou Google Café ou bien les petits stylos pour voir en fait que on est sur chaque samedi de conférence, mais chaque samedi il y a des jeunes qui répondent présents en fait. Donc, ce que nous avons réussi à faire pendant, j'ai envie de dire, monsieur Gundo, c'est que nous avons réussi à faire pendant presque 14 mois, 15 mois, sur un mois, eh bien, les équipes vont répondre suffisamment aux enjeux et atteindre les objectifs, en fait, que l'on se fixe. Okay. Ça veut dire qu'il y a aussi une des stratégies que nous avons, qui est importante de le dire, c'est que le petit stylo n'agit pas seul. L'association agit avec des organisations de la société civile, avec des organisations de jeunes qui sont avec nous. On peut, pour ne pas être limitatif, mais la Jeune Chambre internationale en fait partie. Et bien, les associations communautaires en font partie. Les associations étudiants, étudiantes en font partie aussi. Ouais. Donc, ils viennent en fait naturellement. Les présidents de ces associations viennent à chaque fois qu'on les appelle, à chaque fois qu'on les sollicite. Okay. Et donc, à partir de là, ça fonctionne bien. Ouais. Et donc, puisque surtout, on a des ambitions et ces ambitions sont utiles pour les jeunes, sont utiles pour le Mali, sont utiles, je dirais, pour le monde. Parce que je sais que l'organisation de tutelle, le département de tutelle, qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports, ils font beaucoup de choses. Les choses évoluent, des stratégies sont engagées. Il y a eu récemment, en fait, un débat national sur la jeunesse, un débat aussi national sur l'éducation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Et quand vous regardez ces débats qui ont été pilotés par les différentes autorités, ça converge vers l'idée qu'il faut renforcer les capacités des jeunes. Et donc, du coup, nous, on est totalement inscrits dans cette lignée, dans cette visée.
D'accord. Revenons à la campagne, la deuxième édition, quelle est la différence avec la première? Et vous avez parlé d'ateliers, de conférences. Qui anime ces ateliers et ces conférences?
Oui. Alors, c'est une question très importante. La première campagne que nous avons organisée, on a fait des tables rondes, il y avait des acteurs clés, mais tout le monde était au même niveau, on échangeait, on discutait, etc. Donc, ça s'est limité à cela, mais il y a beaucoup d'informations que nous avons prises. Ici, la particularité de cette campagne, avec plusieurs dimensions, les tables rondes, les conférences, les ateliers, une campagne nationale d'image. Alors ça, c'est très important, je vais insister là-dessus, cette campagne nationale, c'est-à-dire qu'on va demander aux jeunes maliens un peu partout, au Mali ou même en dehors du Mali, de prendre en photo ou en vidéo une scène qui exprime le renforcement des capacités des jeunes ou qui exprime les capacités d'agir des jeunes dans leur localité. Ça veut dire un jeune qui crée une entreprise locale pour assainir sa rue et qu'on filme ou qu'on prend en photo cette activité, qu'on le publie, là, on est dans la campagne jeunesse. C'est l'objectif que nous fixons. Ça veut dire que c'est l'objectif d'amener vers l'action, vers l'activité. On ne va pas être dans les discours « il faut ça, il faut ça », mais on est dans l'action. Donc, et on prend en photo et en vidéo de l'action pour les publier. Et ensuite, la dernière dimension, la cinquième dimension, c'est un concours que nous allons faire entre les entreprises des quartiers de Bamako, un concours d'entrepreneuriat. Ce que l'on cible, ce sont les entreprises qui sont socialement utiles. C'est-à-dire des entreprises qui ont été créées par des jeunes et qui répondent à un besoin immédiat et local. Et donc, on fera un concours et on va distribuer des lots aux vainqueurs. Aux vainqueurs de la campagne nationale et aux vainqueurs aussi du concours sur l'entrepreneuriat. Alors du coup, c'est que pour répondre à votre question précisément, donc vous avez vu, d'une activité, on passe à cinq activités, diversité d'activités, avec aussi des conférenciers et des animateurs de table ronde que nous avons finement sélectionnés avec la délégation de l'Union européenne au Mali. Finement sélectionnés, comment? C'est des jeunes, ce sont des jeunes qui ont été formés ici, beaucoup, et qui ont développé des activités qui sont importantes. Je donne l'exemple de la conférence, peut-être vous avez assisté, la première conférence était animée par Sidi Danioko. Qui ne connaît pas Sidi Danioko, qui est un entrepreneur de très haut niveau, un homme d'une intelligence très fine qui développe, qui transforme, je vais le dire comme ça, qui transforme en or tout ce qu'il touche, un homme extrêmement fin, très adapté, très au fait de la réalité, formé au Mali, développé au Mali, et qui est aujourd'hui le vice-président du Conseil national du patronat du Mali. Donc, alors montrer ce type de modèle aux Maliens et aux jeunes Maliens, je trouve que c'est quand même extrêmement positif.
Pendant la télé, lui, quel sera son rôle à lui?
Alors, vous avez vu la diversité des pratiques. Mm-hmm. L'atelier, en fait, l'atelier, on va pas donner la parole aux conférenciers. Lors de l'atelier, on va amener les jeunes à réfléchir entre eux ce qu'ils souhaitent par rapport à la thématique. Vous avez vu, le premier atelier que nous avons fait cette semaine, dans ce premier atelier, on a structuré les jeunes en 4 groupes et chaque groupe s'est occupé d'une problématique spécifique. Le premier groupe a parlé de l'éducation, le deuxième groupe a parlé des jeunes diplômés, le troisième groupe a parlé des jeunes entrepreneurs, de leurs difficultés, et le quatrième groupe a parlé des jeunes qui ne sont pas allés à l'école. Et donc, ça veut dire que les jeunes ont parlé de ça, c'est-à-dire de leur situation, de faire le diagnostic de leur situation et de proposer des pistes de réflexion pour répondre aux enjeux qui ont été identifiés. Et donc, ces pistes, on les communique avec les conférenciers qui viennent pour dire ce qu'ils ont compris de tout ça et qui pourront répondre aux problématiques soulevées par les jeunes des ateliers. C'est une démarche qui est vraiment très innovante, très particulière et qui peut même inspirer beaucoup de gens qui vous écoutent, je suis sûr. Les autorités vous écoutent, les associations vous écoutent, les ONG vous écoutent. Ça peut leur donner en fait des idées de démarche, puisque cette démarche que nous avons initiée ici, c'est une démarche qui est vraiment très porteur, qui permet d'identifier des problèmes et de donner des solutions collectives aux problèmes. Ça, c'est notre enjeu.
D'accord. En tant qu'enseignant-chercheur, permettez-moi de revenir sur cette dimension innovante, les jeunes qui n'ont pas été à l'école. Et pourquoi cette couche spécifiquement, vous l'avez cité tantôt, c'est des couches qui sont très souvent oubliées. Qu'est-ce qui vous a fait penser à eux?
Eh bien, aujourd'hui, pour la construction de la société malienne, on ne peut pas faire avec une partie de la population seulement. Nous sommes obligés de faire avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est par la masse, c'est par l'intelligence collective qu'on va réussir à faire bouger les choses, qu'on va faire évoluer nos contextes, qu'on va faire évoluer nos situations. Si on n'arrive pas à faire jouer cette intelligence collective, on risque de ne pas réussir à atteindre les ambitions. Donc vraiment, l'appel, c'est d'être dans cette réflexion que toutes les couches sont importantes dans la société, que tout le monde peut venir en fait pour contribuer au progrès de la société. Moi, j'ai une conviction, en fait. C'est la performance. J'ai fait du judo depuis pendant plusieurs années. J'ai fait des résultats dans les compétitions en judo et j'ai compris que le secret de la performance, c'est uniquement la répétition. Ça veut dire que quand vous faites une pratique et que vous le faites avec discipline, avec sérieux, vous allez vous en sortir. Ça veut dire que les jeunes qui ne sont pas allés à l'école, même si certains parlent français ou que d'autres ne comprennent pas ce que je dis, mais en tout cas, on va leur transmettre le message, c'est qu'ils ne doivent pas se décourager. Chaque chose qu'ils savent faire, qu'ils le fassent avec discipline. Et en le faisant avec discipline, ils vont se développer. Quand vous faites du journalisme, c'est la même chose. Celui qui travaille plus en journalisme, c'est celui qui s'en sort le mieux. Celui qui travaille plus en cadrage, c'est celui qui s'en sort le mieux. C'est pareil pour la maçonnerie, c'est pareil pour la menuiserie, c'est pareil pour toutes sortes d'activités et c'est pareil pour les études. Pour les jeunes qui nous écoutent, eh bien, si vous êtes aux études, ne faites pas ça avec négligence. Faites ça avec sérieux, avec discipline, parce que vous allez réussir. Si vous voulez vous exprimer correctement, ben, il faut répéter. Et vous allez vous exprimer correctement. Si vous voulez parler l'anglais, eh bien, répétez un nombre incalculable de fois l'anglais. Eh bien, vous allez parler l'anglais. L'un des secrets que j'ai compris, en tout cas, de ma petite expérience, c'est ça. C'est le temps consacré à l'activité qui détermine la performance.
D'accord. Après un mois d'activité, d'accompagnement, de coaching, quels résultats attendez-vous de ces jeunes qui vont participer à ces activités pendant ce temps?
Eh bien, l'un des enjeux, c'est de transmettre l'information, la bonne information. L'un des enjeux aussi, c'est de permettre aux jeunes d'avoir une prise de conscience de ce qu'ils peuvent faire. Autre enjeu, c'est de permettre aux jeunes d'identifier quelques enjeux, quelques secteurs clés sur lesquels ils peuvent s'engager. Donc, quand on réussit cela, c'est déjà, je crois, un bon point positif. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a toujours de la suite dans les idées. À travers cette opération, à travers cette campagne, on va identifier 20 jeunes leaders qu'on va former jusqu'au développement d'une entreprise socialement utile. Donc ça veut dire qu'à la clôture de ce projet, les petits stylos prennent le relais pour aller encore plus loin avec les jeunes qui auront été identifiés pour la création d'entreprise, on va les coacher, on va les manager, on va les former à l'entrepreneuriat et on va les amener progressivement à développer un business et à le mettre en place. Et donc, à partir de là, on a un succès. Les images sont gardées, mais les actions socialement utiles sont portées par des jeunes. S'ils arrivent à faire ça, eux aussi vont être des porteurs d'étendard de cette philosophie. Et donc, à partir de là, c'est quelque chose qui va suivre son bonhomme de chemin. Le slogan des petits stylos, il ne faut pas oublier, c'est « brandir le stylo pour le progrès ». Ça veut dire qu'on prend le stylo, on tient fermement ce stylo, on le pointe vers le ciel. C'est notre attachement au progrès, aux valeurs en fait, humanistes.
Oui. Même si on n'est pas allé à l'école, on peut le faire.
On peut le faire, absolument. On peut brandir le stylo, puisque si vous êtes menuisier, je vois mal un menuisier construire son meuble sans prendre le stylo pour dessiner ou prendre les mesures, etc. Donc, vous avez raison, c'est un petit instrument, mais c'est un instrument qui est très utile.
Tout à fait. Alors, lors de la conférence de presse, un mot, vous répétiez très souvent un mot, c'est le mot, la phrase, disons, qui unit, selon vous, l'humanité.
Oui.
Homme, connais-toi toi-même, dit par les philosophes grecs, et en Bamanaka, Sodon, Iriton, Iriton, Lénionote. Et pourquoi c'est si important pour vous, ce message?
Ce message, vous l'avez résumé, et d'ailleurs, ça transgresse les frontières quand vous réfléchissez sur l'histoire des idées, l'histoire des idées, et puis des idées qui ont survécu, en fait, aux intempéries, qui ont survécu aux révolutions, qui ont survécu aux bouleversements dans le monde, qui ont survécu aux guerres. Alors, quand vous voyez ces idées, eh bien, il faut les retenir. Ça veut dire que l'humanité croit en ces idées. Et quand vous voyez que certaines idées aussi ne sont pas que chez nous, que l'on retrouve un peu partout, eh bien, vous vous dites, il y a quand même un secret là-dessus. Donc, voilà pourquoi on a choisi cela. Renforcer les capacités d'agir des jeunes sur eux-mêmes, vous avez vu. La première phrase, le premier couplet, c'est orienté vers qui? Vers le jeune.
Tout à fait.
Donc, ça veut dire que quand vous allez dans les philosophes grecs du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, la philosophie majeure, c'est connais-toi toi-même.
Tout à fait.
Voilà. Ça veut dire que la meilleure connaissance est celle de soi-même. Cette connaissance qui est tournée vers soi-même, de connaître ses aspirations, de connaître ses points, ses atouts, de connaître aussi eh bien, ses moments de doute. Eh bien, quand on connaît tout ça, devant n'importe quelle situation, on pourrait s'adapter. C'est une théorie, en fait, d'adaptation humaine. Darwin, à un moment donné, lorsqu'il a fait son expédition et qu'il a recensé les espèces animales partout dans le monde, il s'est, dans les îles Galapagos, il s'est rendu compte que il y a des espèces comme les dinosaures, autres, il y a des espèces qui n'ont pas réussi à s'adapter à leur nouvel environnement. Et pour ces animaux, ils disparaissaient.
Tout à fait.
Bon. Et pour les autres, qui parviennent à s'adapter à leur environnement, eh bien, ils survivaient. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils regardent au fond d'eux-mêmes ce qu'ils ont et comment ils peuvent s'adapter à ce nouvel environnement. Quitte à changer de régime alimentaire, quitte à vivre dans l'eau un peu plus longtemps, quitte à sortir de l'eau pour aller sur terre, et respirer l'air normalement. Donc, vous avez vu, ça demande en fait une forme d'adaptation. Et dans le monde actuel d'aujourd'hui, la crise que nous traversons, les conflits dans le monde, eh bien, notre survie est conditionnée à notre capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, c'est la définition même de l'intelligence. Les grands psychologues nous parlent de l'intelligence en ces termes. L'intelligence n'est rien d'autre que notre capacité d'adaptation. Bon, donc, ça veut dire que si c'est cette définition de l'intelligence, il faut qu'on se l'applique. Donc, ça veut dire que ce monde, il est bouleversé. On essaie de trouver des solutions pour notre adaptation. C'est pas qu'au Mali qu'il y a la crise. Il y a la crise un peu partout dans le monde. Et donc, du coup, nous, on doit se serrer les ceintures pour nous adapter. Et des pistes que nous avons choisies pour réussir cette adaptation, c'est la formation. Je suis sûr que vous allez y en venir. C'est la formation de la jeunesse. Vous avez dit que la jeunesse peut être une force pour l'État, mais elle peut être aussi une faiblesse.
Quand
elle n'est pas formée ou orientée, quand elle n'est pas aidée, quand elle n'est pas accompagnée, quand elle n'est pas coachée, quand on ne lui dit pas dans quel monde il évolue, quand on ne lui dit pas quelles sont les chances pour lui de s'en sortir, quand on ne lui montre pas, en fait, le chemin, c'est très compliqué. Donc, notre objectif, c'est de montrer ce chemin, en fait, aux jeunes, de montrer ce chemin aux jeunes, puisque si les jeunes trouvent ce chemin, le pays va s'en sortir et on va vivre heureux, ou nos descendants vont vivre heureux, ils n'auront pas à supporter ce que nous avons supporté de notre vivant. C'est ça, en fait, l'engagement profond. Mmh. Le sens authentique de l'engagement, c'est un engagement désintéressé. C'est-à-dire que je m'engage, non pas parce que je vais obtenir de l'argent derrière, je m'engage pour la nécessité de m'engager. Et ça, ce combat, quand on le commence, eh bien, il n'y a pas de limite.
Peut-être.
Personne ne pourrait arrêter cela. Les gens peuvent essayer de vous nuire, les gens peuvent essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais il y aura toujours, dans la grande masse, des gens qui vont faire preuve d'intelligence et qui vont comprendre le sens véritable de notre engagement. Et je crois que c'est ce message qu'il faut porter aux Maliens aujourd'hui. D'accord. Que nous pouvons nous en sortir ensemble.
D'accord. La campagne, elle se limite uniquement à Bamako ou les régions sont concernées?
Alors, il y a notamment sur le quatrième volet que je vous ai indiqué, le quatrième volet qui est la campagne nationale avec les prises de vidéos, les photos, etc. Donc ça peut se faire partout. Les jeunes de Sévaré, de Tombouctou, les jeunes de Kidal, les jeunes de Kaï, les jeunes de Sanankoroba, à côté, peuvent se prendre en vidéo ou prendre en photo des situations où ils se disent « Ah, ça, c'est vraiment, l'influence des jeunes, les capacités d'agir des jeunes dans leur localité, ils montrent. » Un jeune qui va prendre, par exemple, un grand champ de maïs en photo avec un jeune et sa daba, c'est quand même la valeur travail.
C'est un message, oui.
C'est un message fort, vous avez raison. C'est un très fort message. Et donc, c'est ce type de message que nous voulons porter.
D'accord. Espérons que les uns et les autres ne feront pas comme les jeunes de Gao, mes cousins qui ont ressuscité un arbre qu'ils appellent célèbrement l'arbre de la connexion.
Oui.
Et j'espère que ce sera un peu plus dans l'entrepreneuriat et dans des réalisations. Et même s'il faut saluer quand même ces gestes qui a consisté à sauver l'arbre sur laquelle ils vont faire les connexions, on les salue, nos cousins Songoï depuis Gao. Alors, là, c'était une parenthèse.
Alors, salutations aux amis de Songoï. Nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous.
Alors, en tant qu'enseignant-chercheur, vous êtes jeune. Que pensez-vous de la jeunesse malienne?
Oui.
Et pour vous, cette jeunesse qu'on dit désorientée, très peu instruit pour vous. Outre les formations, quelle est la solution pour avoir une jeunesse active, une jeunesse entreprenante?
C'est une question qui est très importante. C'est une question, beaucoup de gens essaient de porter des messages ou des discours un peu politiques là-dessus. Parfois des discours qui sont déconnectés de la réalité. Mon opinion personnelle de la jeunesse malienne, c'est que cette jeunesse, elle a beaucoup de force. Elle traverse des périodes qui ne sont pas faciles pour nous, qui ne sont pas faciles pour le Mali, pour le monde. Et parfois, certains baissent le bras, certains malheureusement baissent le bras et attendent parce qu'ils ne voient pas. Mais ils attendent, ce n'est pas parce qu'ils sont fainéants, ce n'est pas parce qu'ils sont bons à rien. Ils attendent juste un coup de pouce. Ces jeunes attendent un coup de pouce. Ça, c'est une catégorie qui attend juste un coup de pouce. Et il y a une autre catégorie de jeunes que je salue aussi au passage, c'est cette jeunesse entreprenante, c'est cette jeunesse qui se lève, c'est cette jeunesse connaissant les situations difficiles qui essaie de s'en sortir. Eh bien, parfois c'est difficile pour eux, parfois c'est des aventures heureuses pour d'autres, mais cette jeunesse aussi a besoin d'une chiquenaude pour aller encore plus loin. Donc, pour moi, si je me limite à ces deux catégories de jeunes, là, vous avez compris, je ne parle pas de ceux qui sont allés à l'école, je ne parle pas de ceux qui sont sortis de l'école, qui sont diplômés. Ces deux catégories, vous allez les retrouver un peu partout. Voilà. Vous allez les retrouver chez ceux qui n'ont pas été à l'école et vous allez les retrouver dans ceux qui sont allés à l'école. Bon, donc, ça veut dire que c'est la catégorie qu'il faut penser. Comment on pourrait accompagner ces jeunes-là? Premièrement, il faut qu'on arrive à structurer des stratégies qui trouvent ces jeunes et qui leur proposent des solutions adaptées pour s'en sortir. Ça, c'est une des choses. Deuxième stratégie, c'est de mettre l'accent sur la formation de ces jeunes. Et dans la formation, je mets plusieurs volets, c'est-à-dire le système éducatif classique, de renforcer ce système éducatif classique par des idées nouvelles, par une organisation nouvelle, par des stratégies nouvelles, pour renforcer le secteur de l'éducation pour que ce secteur de l'éducation soit qualitatif, encore plus qualitatif. Ça veut dire que si les autorités nous regardent et que le conseil que je pourrais donner, c'est la mise en place des normes qualité et qui sont infaillibles pour le système éducatif. Deuxième stratégie, par la formation professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas trop que ce secteur de la formation professionnelle est un secteur clé pour notre pays, parce que si on renforce le secteur de la formation professionnelle, les retombées sont nombreuses pour nos pays. Ça veut dire que les autorités doivent penser à la mise en place d'une solution de financement de la formation professionnelle. Je ne parle pas notamment des organisations qui ont été mises en place en disant qu'ils vont renforcer les capacités des jeunes, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une véritable politique qui va financer la formation professionnelle avec des normes précises, avec des quotas de formation qui sont indiqués. Le fonds d'appui à la formation professionnelle, je connais bien, je connais les dispositifs qui sont mis en place, mais je pense, le ministère de la formation professionnelle, la direction nationale de la formation professionnelle, je connais ce qu'ils font, ils font des bonnes choses, je pense qu'il faut aller un peu plus loin par cette législation qui permet de renforcer le secteur de la formation. Donc vous avez vu, je vais pas par plusieurs stratégies ou par un discours politique, il faut de l'éducation en plein formation, les gens qui en parlent, ils ne savent même pas de quoi il est question. Vous leur dites, ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. Ils vont vous sortir deux, trois idées derrière là-dessus. Donc la véritable politique, je dirais, à l'endroit de cette jeunesse, cette jeunesse qui reste passive parce que ne sachant pas quoi faire, et cette jeunesse qui essaie de se mobiliser, mais avec beaucoup de difficultés, eh bien, il faut les aider. Ces deux catégories de jeunes. On les retrouve dans l'école, on les retrouve dans la rue, on les retrouve dans la vie de tous les jours. Donc en les aidant, par ces deux stratégies, notamment, parce qu'il y a d'autres stratégies qui sont développées par les autorités. On ne peut pas avoir la prétention de tout connaître, mais il faut être à l'écoute de ce que les uns et les autres nous disent. Aujourd'hui, j'ai écrit 6 livres hein, sur ces questions qui ont une place dans les bibliothèques importantes du monde. Je suis sollicité en Europe pour parler de ça. Le dernier livre que j'ai écrit, c'est sur l'excellence universitaire, et ça parle de ces stratégies. Mais aujourd'hui, malheureusement, ailleurs, dans d'autres pays, eh bien, on me sollicite sur ces questions-là, mais au Mali, très peu. Bon, mais je ne perds pas espoir. Je sais que grâce à vous, grâce à d'autres autorités, on va pouvoir se mettre à table pour approfondir ces stratégies.
D'accord. En tant que sociologue, vous l'avez dit, c'est très compliqué d'entreprendre. Je vais citer la dernière invitée qui était là, que nous saluons de passage.
Sidi Danioko.
Kadidiatou et Sanogo, plutôt Sogoba, qui a été lauréate à Azerbaïdjan. D'accord. Elle est initiative d'un dispositif de santé, Kenya Box. Elle le disait tantôt, le déclic a commencé quand quelqu'un lui a dit que ça ne va jamais réussir. C'est un dispositif de technologie. Bon, la personne lui dit, on est au Mali, la technologie et la santé, en plus que tu n'es pas dans le domaine, ça ne va pas réussir. Mais elle dit qu'elle, par contre, elle a pris ça sur elle et ça a permis d'être son gaz pour aller un peu plus de l'avant. Est-ce que face à ce genre de propos, comment un entrepreneur, comment un jeune qui n'a pas beaucoup de moyens doit se comporter?
Bien. Je salue au passage Kadidiatou, que je connais très bien. L'année dernière, je l'ai formée à l'Institut français. Elle était dans ma classe pour une intervention, une courte intervention devant les gens mobilisés par l'Institut français pour renforcer leur capacité. Donc, ils m'ont fait appel pour leur former. Et Kadidiatou était dans la salle, très curieuse, en posant des questions. Donc, quand vous le citez, eh bien, ça me fait sourire, puisque je lui fais un coucou au passage. Elle a parfaitement raison de se dire qu'il faut résister. C'est un trait de caractère. Donc, ça veut dire que le fait de résister, c'est résister à tout ce que l'environnement nous renvoie. Donc, ça veut dire que nous devons faire en sorte, nous-mêmes, en tant qu'adultes, de faire attention à nos propos. Nous devons plutôt encourager les jeunes à sortir de leur situation. Vous avez bien compris que même les gens qui prennent le thé dans les grains, je ne suis pas en train de les critiquer. Est-ce que vous avez entendu un seul mot de critique à l'endroit des gens qui prennent le thé en grains? Non. Je leur dis, ils sont en attente de coups de pouce, de shake nod, pour qu'ils puissent agir efficacement. Et donc, au lieu de les critiquer, apportons-leur des solutions, des pistes pour qu'ils puissent avancer. Et donc, mais par contre, si on leur dit ça ne va jamais marcher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'asseoir. Malheureusement, la plupart des jeunes qui restent assis dans les grains, moi je vais vous le dire, c'est parce qu'ils entendent trop souvent ce type de discours. Mm-hmm. Nous devons tourner le dos à cela. Les jeunes ont du potentiel, ont de la force. Mm-hmm. Nous avons un pays où la démographie est galopante. Mm-hmm. Nous avons un pays où les besoins vont se développer. Nous avons un pays qui dispose de ressources naturelles enviées par tout le monde. Mm-hmm. Donc nous devons former nos jeunes pour qu'ils puissent prendre en main ces ressources, que ces ressources leur servent d'abord à eux, mm-hmm. avant de servir à d'autres ailleurs. Parce que nos ressources, aujourd'hui, servent l'autonomisation des jeunes ailleurs, en Occident, partout dans le monde, mais pas nos jeunes. Donc, nous devons réussir à tordre cette représentation, cette façon de faire, pour imposer une nouvelle norme. Mm-hmm. Que le bonheur n'est pas réservé aux gens de l'extérieur. Le bonheur, mm-hmm. il est à la portée de nos Maliens, de nos jeunes Maliens, et nous devons les amener à toucher ce bonheur.
D'accord. Je vais vous demander un exercice particulier. Ah. C'est de résumer un peu l'objectif de la campagne Jeunesse pour les jeunes en Bamanankan. Oui. Et de dire, si en Bamanankan, ceux des jeunes qui ne sont forcément pas allés à l'école, comment ils peuvent vous rejoindre oui. pour eux aussi bénéficier de ces accompagnements et tout.
Bon. Kuma kan jara ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ kuma cogoya min na an bɛ tubabukan in fɔ cogoya min na ani an bɛ kumaw ta cogo min na u t'a faamuya u bɛna fɔ ko i b'a sɔrɔ an yɛrɛ ɲinɛnen don u kɔ ubiyɛn u ka hakilina ubiyɛn u ka taabolo t'an ka kumaw kɔnɔna la donc an ye fɛn min sigi sen kan n'a y'a fɔ o ma ko campagne jeunesse o kɔrɔ de ye jumɛn ye an kɛlen don ka wele wele de kɛ ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu sera ka u ka jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la mɔgɔ minnu sera k'u ka sigida bɔ nɔgɔ la o mɔgɔw k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ yen n'o b'an ka sigidaw la olu kana k'u lamɛn pour que ka tasira dɔw dɔn o tasiraw sen fɛ an bɛ jɛ ka fɔ k'o la o tasiraw sen fɛ an bɛ mɔgɔ wele minnu bɛ kuma o fɛ o tasiraw sen fɛ an bɛ denmisɛnninw yɛrɛ ɲininka o hakilinata la donc o la n'an ye fɛn min sɔrɔ o kɔnɔna la an b'o lase jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma pour que ka yira ka fɔ ko denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u sigilen don i b'a sɔrɔ kuma caman u mago bɛ dɛmɛ la min b'a to u bɛ se ka fɛn dɔw yɛlɛma donc o dɛmɛ an ka hakilina in b'o de nɔfɛ an bɛna n'o dɛmɛ in de ye walasa ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo min na u bɛ se k'u ka ɲɛta sabati cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ ka se u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na ani musomaninw ka pilasiw fɛngɛ musomaninw bɛ se jɔyɔrɔ an ka kalansow la an bɛ se ka o latanya cogo min na donc campagne in b'o o bɛɛ de ko fɔ an ka baara in b'o o sira in de kan wa an yɛrɛ kelen tɛ k'o kɛ an ka partenaire caman bɛ yen olu bɛ ka fara an kan walasa ka se k'o baara in kɛ wa denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ yen olu fana faralen don an kan walasa ka se ka baara nin kɛ o de ye an ka laɲini ye kosɛbɛ.
d'accord mɔgɔ min bɛ fɛ ka da don a barow la a bɛ se ka a b'aw lasɔrɔ cogo di.
alors ni kɔni baara nin daminɛla a b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun kɔnɔna la activité 3-4 de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ o activité 3-4 o ye o bɛ kɛ espace culturel Urugol Café la Musabugu hôpital du Mali kɔfɛla la donc samedi o samedi sibiri o sibiri n'aw sera yen nɔ 16h a b'a sɔrɔ activité dɔ bɛ yen aw bɛ na a tɛ kɛ i n'a fɔ ko dayɛlɛnen don mɔgɔ kalannenw dɔrɔn de ye dayɛlɛnen don bɛɛ lajɛlen ye hali conférence mun n'an y'o kɛ nin samedi nin na nin sibiri nin na o conférence nin mɔgɔ caman mɔgɔ sɔrɔla kɔnɔna la minnu y'u ka kuma fɔ bamanankan na wa conférence yɛrɛ mɔgɔ min ye kun ye ɲɛmɔgɔ ye n'o tun bɛ ka kuma a ye jaabi in di bamanankan in fana la donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko an ka kan nin bɛ se ka nafa ɲɛ an ye yɔrɔ caman na ani baara sira caman fɛ kan ni baara ɲɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la o parce que kan in ye kɛlen i n'a fɔ minɛn dɔ de don min bɛna to i bɛna fɛn dɔ ta a kɔnɔna la ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la o de ye kan ye donc o kɔrɔ de ye ko baara yɛrɛ sɛbɛlama n'i y'i ɲɛsin a ma o ye i bɛ segin fɛn mun kan i bɛ segin fɛn mun kan i bɛ segin fɛn mun kan i bɛ nafa sɔrɔ o la donc an ka baara in b'o yɛrɛ de kan.
d'accord merci monsieur Tchefin Sisoko. merci. alors on est pratiquement à la fin de l'émission et je crois que les inscriptions ou la participation n'est pas clos ceux oui. qui sont intéressés ils vous joignent comment.
bon ils peuvent venir sur l'espace culturel, hein, Ourgol Café, qui est à Moussabougou, derrière juste l'hôpital du Mali. Donc on a des activités les mercredis et les samedis, le matin et l'après-midi. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et c'est un espace culturel donc, qui est ouvert aux gens, en fait, comme beaucoup d'espaces culturels existent au Mali. Nous, on travaille sur, sur la question de la jeunesse. Les pages, les petits stylos fondation existent hein, sur Facebook. Vous pouvez aller liker et puis suivre. Les pages espace culturel Ourgol Café, Ourgol Café existent aussi. Et puis les pages LinkedIn Ourgol Café existent aussi. Donc ça veut dire que les gens utilisent les moyens qui sont les leurs, les leurs pardon, pour nous joindre. D'accord. Donc nous sommes à leur écoute et à leur disposition.
D'accord. Votre mot de la fin ?
Mot de la fin, je crois, c'est résilience. Beaucoup de Maliens disent on est résilient. Eh bien, continuons d'être résilients. Et je pense que le mot clé aussi que je pourrais ajouter à la résilience, c'est l'adaptation. En citant Darwin, comme je l'ai fait dans le corps de mon discours, si on ne parvient pas à assurer notre adaptation, on risque d'avoir quelques difficultés. Donc l'idée, c'est réussissons, mais ensemble, notre adaptation au nouveau monde.
D'accord. Seul on va loin, ensemble seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est avec ces mots que nous mettons fin à cette émission que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Vous l'aviez compris, nous étions avec Tiefi Sissoko. Il est enseignant-chercheur en sciences sociales et également initiateur et président de Petit Stylo Fondation. Et c'est fut un plaisir pour moi de partager son avis sur cette jeunesse malienne, une jeunesse décriée, mais une jeunesse quand même qui reste forte et une jeunesse qui a beaucoup de potentiel. Ne nous trompons pas, nous avons du potentiel et nous devons concourir avec le monde. Ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous.